Du nouveau sur la fréquence immaculée.
Du nouveau sur la fréquence immaculée.
Du nouveau sur la fréquence immaculée.
Pour une formation intégrale de la jeunesse congolaise.
Pour la promotion des valeurs humaines, sociales, religieuses et culturelles.
Pour une jeunesse consciente, engagée et protagoniste du présent et du futur.
Suivez chaque samedi à 15h30
l'émission Jeune pour Jeune
sur les ondes de Radio Maria
89.9 MHz.
Chers jeunes, chers amis de l'émission Jeune pour Jeune, bonjour. Nous avons la joie de nous retrouver une fois de plus à travers cette voie des ondes autour de notre émission. Nous poursuivons avec les thèmes précédents qui portent sur le jeûne face à la pauvreté. Et nous avons la joie de recevoir notre infatigable ami, les frères Rifin Ngoy, rédacteur en chef de la revue L'Avenir. Frère Rifin, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que nous sommes accompagnés d'une invitée spéciale, la révérende sœur Dorothée, fille de Jésus, fille du Sacré-Cœur de Jésus. C'est quoi encore, ma sœur?
C'est religieuse du Sacré-Cœur de Jésus.
Ah, d'accord. Religieuse du Sacré-Cœur de Jésus. J'oublie facilement, ma sœur.
Ah oui, je comprends.
Excusez-moi. Ma sœur, bienvenue. Bienvenue à cette émission. Nous savons que c'est la première fois que nous vous accueillons et je suis sûr que vous allez aimer et vous deviendrez, pourquoi pas, fidèle aussi à cette émission. Alors, à tous les auditeurs et auditrices, internautes qui nous suivent, vous pouvez interagir avec nous par les numéros 085 57 28 211. 085 57 28 211. Interagissez soit par un message ou un appel. Nous sommes là pour vous. Les jeunes face à la pauvreté, un sujet alléchant, frère Rufin. Je vais revenir à la dernière question que nous avons abordée la fois dernière. Je reviens, je commence avec vous. Pensez-vous que la pauvreté est un choix ou c'est une situation qui peut arriver en dépit de vos efforts? Est-ce un choix? Je sais que vous avez déjà répondu à la question, mais peut-être qu'il n'y avait pas... Il y avait des gens qui ne nous avaient pas suivi la fois passée. Vous pouvez toujours nous rappeler...
Merci, frère Omer. Oui. Je pense que je vais reprendre la même réponse.
Oui. Elle était bonne, d'ailleurs.
Espérons. Alors, la pauvreté n'est pas un choix.
Oui.
C'est une situation qui nous arrive en dépit des efforts que nous pouvons fournir.
Mm-hmm.
C'est une situation qui n'est pas souhaitable, qui nous arrive. Et cette situation peut être dite de plusieurs choses. Peut-être d'un problème économique, d'un problème, pourquoi pas, culturel, mais aussi d'un problème politique. Mmh. Alors, la pauvreté en soi n'est pas un choix délibéré. C'est vraiment une situation qui nous arrive. Et quand elle arrive, nous avons toujours tendance à la combattre. Mmh. Parce que nous ne la voulons pas.
Voilà. Ah, frère Rifin. Vous tenez tellement à cette réponse.
Oui.
Bon, la pauvreté, ce n'est pas un choix. Alors, la fois passée, j'avais fait une objection par rapport à cette réponse. Je me disais,
oui.
Toutes ces personnes qui se battent, toutes ces personnes qui sortent de chez eux le matin, mais qui rentrent parfois avec rien, ils se sont battus, mais ils sont rentrés avec rien. Il y a ce côté-là. D'un autre côté, il y a aussi ces gens-là qui ne font rien. Ils ne font rien du tout, rien.
Ouais.
Ils se réveillent le matin, ils ne font rien. Ils ne veulent pas chercher du travail. Ils ne veulent pas se débrouiller. Ils ne veulent rien faire.
dans ce contexte-là, vous ne pensez pas que c'est un choix. N'est-ce pas que cette personne-là choisit d'être pauvre, puisqu'il ne veut rien faire?
Non, il n'a pas choisi d'être pauvre. Il a choisi de vivre dans l'oisivité. Okay. C'est-à-dire, il ne cherche pas la pauvreté, mais les actes qu'il pose l'amènent à la pauvreté. Et une fois tombé dans la pauvreté, il se découvre et il cherche à se relever. Donc, ce n'était pas son objectif de devenir pauvre. Mmh. Mais les actes qu'il avait posés l'a conduit à la pauvreté. Mmh. La pauvreté en soi n'est pas un choix, mmh. mais il y a des actes qu'on peut poser qui nous amènent à la pauvreté. Exactement. Oui. Mmh.
Sœur Dorothée, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus. Mmh. Voilà, je n'ai pas oublié. Ma sœur, vous avez certainement rencontré des gens qui ne font rien. Peut-être vous leur avez prodigué des conseils, mais ils n'ont pas voulu changer. Ils ne veulent pas chercher. Est-ce que, à propos de ces gens-là, on ne peut pas dire qu'ils ont choisi d'être pauvres, d'après vous? Ce n'est pas un choix d'être pauvre?
Bon, moi, je pense que ce n'est pas réellement un choix. Mmh. Parce que je ne pense pas que quelqu'un peut vouloir être pauvre. Mmh. C'est quand on est là, tout le monde cherche à vivre, à bien vivre également. Mmh. Et comment est-ce qu'on peut choisir d'être pauvre? Si on est pauvre, c'est-à-dire on manque quelque chose. Mmh. Déjà, quand on veut être pauvre, c'est parce qu'on n'a pas cherché. Mmh. Et même si on cherche, on ne trouve pas. Mais on doit toujours chercher et trouver.
Il y a toujours la possibilité.
Oui. Mmh. Il y a toujours la possibilité de chercher et de trouver et de s'en sortir. Mmh. Et comment toi, tu peux choisir d'être pauvre? Mmh. Moi, je pense que ce n'est pas un choix. Mmh. Ce n'est pas un choix. On cherche toujours. Et si on ne trouve pas, on recourt à d'autres possibilités.
Mmh. Alors, vous allez m'excuser parce qu'il y a un auditeur ou une auditrice qui nous fait un message. Je ne sais pas. Voilà, il s'est présenté. C'est Jean Iloukou. Il nous dit ceci. Bonsoir, ma radio. La pauvreté, ce n'est pas un choix. Il vous rejoint, effectivement. Peut-être chez quelqu'un ou quelqu'une qui ne veut pas chercher ou s'élever. Voilà, c'est un étudiant, Jean Iloukou. Merci beaucoup, Jean. Merci pour cette contribution. Donc, à ceux jeunes qui nous suivent, sachez que la pauvreté n'est pas un choix. Alors ici, il faut distinguer par rapport à la pauvreté religieuse. Oui, ça vraiment, je crois que déjà la fois passée, le frère Ruffin avait bien distingué. Ici, on parle bien de cette pauvreté. Dans ce contexte, c'est la question, c'est-à-dire la pauvreté matérielle. Quelqu'un qui ne veut pas chercher, même pas du travail, qui ne veut pas se débrouiller, et c'est pas qu'il a choisi ça, mais ce sont les actes, en fait, comme l'a dit le frère Ruffin. Frère Ruffin, je reviens à vous. Nous sommes tous à Kinshasa et nous voyons comment ça se passe. Généralement, moi, quand je sors, je ne rentre pas à la communauté ou à la maison sans rencontrer quelqu'un qui me demande de lui donner de l'argent.
Oui.
Alors, en tant que jeune, vous êtes rédacteur en chef de la revue L'Avenir. Vous écrivez pour former, informer les jeunes. Alors, est-ce que vous encouragez tous ces jeunes-là que nous croisons sur la rue et qui nous demandent de l'argent?
Merci. Bon, cette question, elle est délicate parce que les gens qui se retrouvent dans la rue, ils sont confrontés à des problèmes différents. Mais encourager, non. Moi, je n'encourage pas cette pratique. Quémander en cours de route, je n'encourage pas. Pourquoi? Parce que ce que ces gens-là demandent, ce n'est pas pour survivre, même pour leur vie, mais c'est pour un instant.
Excusez-moi de vous arrêter à mi-chemin.
Oui.
C'est pas pour résoudre leur problème, voilà, d'être,
ouais,
sur la rue ou dans la rue, mais... Mmh. Peut-être pour un instant.
Un instant, oui. Alors, comme je disais, c'est comme qui... En fait, ce n'est pas une pratique à encourager, mais condamner aussi, ça serait peut-être trop dur, mais il fallait trouver des solutions. Mmh. proposer des moyens, par exemple, pour mettre fin à cette situation. Parce que si on condamne seulement, on ne sait pas ce que les gens sont en train de vivre. Et ce n'est pas tout le monde, tous ces gens-là qui commandent au long des routes, que c'est leur travail. Il y a ceux-là, il est sorti de sa maison, il avait de l'argent et arrivé quelque part, on l'a volé de l'argent. Mais la personne veut rentrer à la maison. Alors, comment est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à chercher, à demander par-ci, par-là. Et comme on est déjà habitué à cette mentalité, disant que tous ces gens-là qui commandent, c'est, voilà, on ne donne pas. Et ça, c'est pourquoi je dis que c'est une situation quand même délicate et complexe. Et je ne l'encourage pas. Mais je demande peut-être proposer un moyen de sortie, des voies de sortie de cette situation. Voilà.
Frère Ruffin, oui. Merci pour cette réponse. Mais excusez-moi, ça c'est une question particulière. Excusez-moi.
Oui.
C'est vrai que ça peut arriver à tout le monde.
Oui.
Ça vous est déjà arrivé de demander de l'argent? Peut-être que vous avez fait tomber de l'argent. Vous n'avez plus de transport, ça ne vous est jamais arrivé?
Bon, pas vraiment demandé, mais il m'est déjà arrivé de demander les transports. Mmh. C'est-à-dire, j'étais dans un long trousseau. Alors, notre véhicule était en panne.
Mmh.
Alors, il faut rejoindre une cité et trouver de l'abri et puis trouver la solution à cette situation. Et effectivement, il fallait demander les transports, non, avec courtoisie, je n'ai pas d'argent, si vous pouvez m'aider avec les transports. Et il y a toujours des gens, des personnes gentilles qui aident toujours. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une chose à condamner.
C'est-à-dire tous ceux qui demandent de l'argent en route ne sont pas nécessairement escrocs.
Effectivement.
Moi, ça m'est déjà arrivé, mais je n'avais pas demandé, mais j'avais marché un long trajet. J'avais fait tomber de l'argent et puis j'ai marché.
Ouais. Mm-hmm.
Mais ma soeur, vous allez m'excuser que je revienne vers vous.
Mm-hmm.
Nous connaissons tous la parabole du bon samaritain. Excusez-moi vraiment que vous êtes religieuse, ma soeur. Nous la connaissons tous, cette parabole. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en route, tabassé par des bandits et... il y a des gens qui passent, il y a un lévite, et puis un prêtre qui passe outre. Mais il y a un samaritain qui vient et qui aide la personne. Et par rapport à cet évangile, on nous a toujours et déjà conseillé de pouvoir manifester de l'attention envers ceux que nous croisons en route ou les démunis et tout ça. Parce que, en lien avec cet évangile ou cette parabole, ne pensez-vous pas que on peut quand même d'un côté aider aussi ces gens que nous croisons en route, peut-être qu'ils n'ont rien.
Mais moi, je pense que c'est possible d'aider ces gens-là. Comme le frère Ruffin l'a dit, on ne sait pas distinguer dans la rue qui est vraiment pauvre et qui demande et qui est vraiment dans le besoin. C'est difficile de distinguer, mais dans la mesure du possible, je peux aider. Si j'en ai, et puis je vois quelqu'un qui me demande, je peux toujours aider.
Merci.
Parce que je ne sais pas, c'est vraiment, c'est difficile de distinguer, c'est un pauvre, c'est quelqu'un qui est dans les besoins. Mais je donne, si j'en ai.
Oui, merci beaucoup ma sœur. Frère Ruffin, parfois ce sont les mêmes personnes qu'on rencontre, ces pauvres-là, parfois ce sont les mêmes personnes. Aujourd'hui, tu vois la personne, demain et après-demain. Et par rapport à ces gens-là, à les voir comme ça, ils sont pauvres. Mais c'est presque chaque jour qu'ils sont là pour demander. Permettez-moi que je revienne sur cette question. C'est une réalité.
Oui. Hein? Bon, je peux revenir au verbe que vous avez utilisé avant. Pour poser la question, vous avez dit, on peut encourager cette situation. Et j'ai dit, non, ce n'est pas une situation ou une pratique à encourager. De même que ces gens-là qui ont fait de cette mendicité leur travail, ce sont des gens à décourager. À décourager, non pas, bon, du n'importe comment, mais essayer. Donc, il y a une façon de donner conseil et que les conseils soient accueillis. Par exemple, avec ces gens-là qui ont fait, bon, je propose en fait cette personne qui a cette habitude d'aller demander de l'argent. Et il a fait de cette mendicité son travail. Si on a vraiment besoin d'aider cette personne, on prendra le temps. On prendra le temps. C'est-à-dire, vous lui demandez, tu cherches de l'argent? Oui, tu veux. Vous entrez en dialogue, en conversation, vous échangez, vous commencez à parler. Donc, toi, ton problème, tu veux aider. Mais ton aide, tu ne veux pas la limiter à l'argent, à donner de l'argent, mais à apporter un plus, à faire découvrir cette personne le mauvais côté, par exemple, de ce qu'elle est en train de faire. Et voilà pourquoi tu peux engager ces dialogues, vous parler avec la personne. Et c'est en parlant que tu commences à décourager la personne. Tu lui montres ce que, donc, les méfaits de cette pratique. Parce que jamais, avec cet argent que la personne demande en cours de route, jamais cet argent ne scolarisera ses enfants, par exemple. Jamais cet argent aidera à l'hôpital au cas des maladies. Voilà, donc, montrer à la personne combien il n'est pas bon de rester là, de faire cela comme un travail, mais plutôt de s'investir. S'investir, c'est-à-dire demander, par exemple, au lieu de demander de l'argent, demander du travail, chercher du travail. Cette aide, par exemple, c'est pour investir. Ainsi, et quelque chose comme ça qui t'aide, donc aider les personnes à voir un peu loin, parce qu'à 60 ans, 50 ans, ils ne resteront pas en route. Ils doivent chercher, aller ailleurs, chercher des moyens, voilà. Donc, faire comprendre à ces gens que ce n'est pas une bonne pratique, ne font pas faire de la mendicité un travail. Voilà.
Merci beaucoup. Ne faut pas faire de la mendicité un travail. Merci. Frère Ifin, pour ces beaux conseils, ces bons conseils à tous nos jeunes, à tous ces jeunes qui nous suivent. J'espère qu'ils les mettront en pratique. Une autre situation parallèle, ma sœur, je vais m'adresser à vous. Certainement, vous faites parfois kimwenza, limité. C'est pas pour informer aux bandits pour qu'ils vous attaquent, non. Moi aussi, j'ai déjà vu ça au rond-point Ngaba. Vous passez par là. Il y a parfois de grandes personnes, des mamans ou des papas qui prennent un enfant peut-être déformé, malade. On le met au milieu là et on demande de l'aide et tout ça. On voit bien que souvent, ce sont des pauvres. Ouais, peut-être un enfant qui souffre, qui est malade. Et il y a des adultes qui demandent de l'argent pour soigner cet enfant-là. Est-ce que vous encouragez ce genre de pratique? Où on prend un malade, on l'expose sur une place publique et on demande à tous les passants de peut-être de contribuer de l'argent pour les soigner. Franchement parlant.
Non, moi je n'encourage pas. C'est un phénomène un peu récent que nous voyons maintenant à Kinshasa, où les gens sont dans la rue, spécialement dans le marché. Et ils exposent quelqu'un, c'est déjà violer sa dignité.
Ouais, exactement.
La personne est malade, et puis vous l'exposez comme ça, tout le monde passe. Pour eux, ils pensent que c'est un travail noble. Moi, je pense que c'est ça. Mais ce n'est pas un travail. Vous exposez la personne avec sa maladie sous prétexte qu'il faut donner de l'argent pour que cette personne-là soit soignée. Et après, est-ce que ces gens-là sont soignés ou pas? C'est ça la question qu'on se pose.
Qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là?
Oui, parce que chaque jour, ils sont là, sous le soleil,
ils
la pluie.
Ils perçoivent de l'argent.
Oui. Parce qu'il y a des gens de bonne foi, vont donner 10 000 francs, 5 000 francs. Mais après, le lendemain, peut-être on va le croiser encore quelque part, la même personne avec la même maladie, dont on ne l'a pas soignée. C'est juste un phénomène qui change la manière de quémander en cours de route pour s'enrichir, si je peux le dire dans ce sens.
Merci ma sœur. Frère Ruffin, je voudrais quand même vous écouter. Une fois, j'étais même avec vous.
Ouais.
Nous avons vu, on criait là, les salles ici, aider les malades, tout ça. On a même fait intervenir le nom de Dieu, tout ça.
Ouais.
Et est-ce que vous épousez cette idée d'exposer le malade en plein air, à ciel ouvert, et de demander de l'argent?
Permettez-moi d'utiliser l'expression vulnérable. La personne qu'on expose là, elle est vulnérable. Alors, on viole sa dignité, comme la sœur l'a souligné. On viole sa dignité. Moi, je n'encourage pas ce phénomène. Au contraire, je propose que ces gens-là laissent l'enfant à l'hôpital et chercher du travail, emprunter, puis avec... remise. Bon, en fait, il y a ces systèmes, je ne sais pas si c'est encore en vogue, c'est-à-dire, vous allez chercher l'argent avec motif, par exemple, non, l'enfant est malade, ceci, c'est là, à une personne, parce que quand vous êtes dans un quartier, vous êtes connu et c'est tout le monde qui sait que tel a telle maladie, par exemple. Et les gens-là qui tombent de nulle part, il faut bien vérifier où est-ce qu'ils volent ces enfants. Mais une personne comme ça, vous pouvez la laisser à l'hôpital. Il y a des structures de prise en charge.
Exactement.
Il y a des structures de prise en charge. Ouais. Alors, au lieu d'exposer l'enfant ou qui que ce soit avec sa plaie, avec sa maladie, c'est violer la dignité de la personne humaine. Laisser la personne malade à l'hôpital et chercher des solutions après. Au lieu de marcher avec cette personne, vous l'épuisez davantage. Oui. Donc, allez-y, les lieux de soins, c'est l'hôpital, laissez cet enfant là-bas et cherchez des solutions, cherchez de l'argent, cherchez, par exemple, travailler pour quelqu'un. Le problème aussi, ce que je voulais souligner ici, les gens, parfois, bon, on se plaint, bien sûr, nous tous, nous nous plaignons des manques d'emploi, du chômage. Mais en cas de maladie, nous sommes incapables d'aller, par exemple, faire la vaisselle au restaurant, un grand restaurant, la vaisselle, par exemple, torchonner. On refuse ça, pourquoi ? Parce qu'on compte un peu tout ce qu'on est, mais au lieu d'aller voler, faire du travail et puis être payé, rentrer, moi, je pense que c'est aussi une option qu'on peut adopter. Oui, donc c'est un peu dans ce sens. Je n'encourage pas cette pratique, je décourage et je dis c'est violer la dignité de la personne humaine. Si on doit être sérieux, ces gens-là doivent même être arrêtés. Et ces gens-là doivent être arrêtés parce qu'ils exposent cette maladie et tout qu'on sort. Ce n'est pas bien. La personne est vulnérable.
Merci, frère Ifa. Ouais. Vous avez dit la même chose avec la sœur, c'est-à-dire... Ouais. On ne doit pas violer la dignité de la personne.
Peu importe la situation.
Et chercher à profiter de sa situation pour se faire de l'argent. Ah, ça, voilà. C'est pas bien. Mais dans certains cas, on n'expose pas la personne. Ça, je vais vous poser une autre question.
Ouais.
On n'expose pas la personne, mais on quelqu'un peut, par exemple, entrer dans un transport, dans un bus, et au nom peut-être d'un orphelinat, au nom de certains pauvres, il demande de l'argent. Là, vous acceptez?
Non, non.
Mais
il
peut dire vrai, peut-être que il gère ou il fait partie des gens qui s'occupent des pauvres quelque part, dans un orphelinat et...
Non.
Il demande de l'argent peut-être dans un bus ou même ça aussi vous...
Non, l'idée, déjà quand on doit, par exemple, je commence loin, quand on envoie l'enfant à l'école, donc on se sent capable de payer ses études. Et quand on prend l'initiative de créer un orphelinat, on doit être capable de prendre en charge les enfants-là. Donc, tu t'es dit, bon, je construis un orphelinat et puis commencer à quémander pour nourrir ces enfants. Non. Donc, ces gens-là, normalement, ce que j'ose croire, au fait, c'est celui qui a un orphelinat, il ne part pas demander de l'argent dans les transports, mais il sollicite des structures. Ce sont des structures, par exemple, des structures de UNICEF, par exemple, pour les hôpitaux ainsi que des soins. Alors, ces gens-là, les gens qui ont des orphelinats, ce sont des personnes qui doivent être responsables parce qu'ils ont pris cette responsabilité d'aider les pauvres. Et alors, ce sont les structures qui visitent ces pauvres-là. Mais quémander de l'argent dans des transports, ce n'est pas, si tu suis bien, ce n'est pas vrai. Parce qu'ils marchent même, là aussi, ils violent toujours la dignité. Parce qu'ils marchent avec des photos de gens qui ont des ventres bédonnants, cochorcorés. Et puis, les enfants, là, ils marchent avec eux par-ci, par-là pour demander de l'argent. Non. Les gens, là, fonctionnent avec des structures. Quand quelqu'un se décide de créer un orphelinat, il doit être capable de prendre en charge ses enfants. Il ne doit pas être donc usé du prestige, de dire bon, moi, je fais cela, mais c'est les autres qui vont nourrir. Non, non. Moi, je décourage le fait de demander dans les transports de l'argent pour nourrir le prétendu orphelin. Non, ça ne passe pas.
D'accord. Ouais. Ma sœur, je sais que le frère Ifin, quand le frère Ifin parlait, vous haussiez votre tête là. Dites quand même quelque chose par rapport à ça. Vous êtes d'accord ou pas?
D'accord par rapport à ce que le frère Ifin
a dit. Par rapport à ce que ces gens-là font.
Non, par rapport à ce que ces gens-là font, moi je ne suis pas d'accord.
Vous entendez?
Je ne suis pas d'accord parce que. Parce qu'ils commencent d'abord. Je vois d'abord la structure de l'endroit où ils accueillent ces enfants-là. Les enfants, disons, les orphelins, comme ils les appellent. Est-ce qu'ils sont réellement des orphelins? Parce que si moi, je veux commencer à être orphelinat, je dois savoir que j'ai de quoi nourrir ces enfants-là. Chaque jour, je vois du côté santé, la maladie qui arrive, surtout avec des bébés. À un certain âge, les bébés sont exposé à beaucoup de maladies. Mais maintenant, moi...
On sent que vous êtes une femme.
Ouais. Maintenant, moi, comment est-ce que je vais commencer à l'orphelinat et puis je n'ai rien? Je commence à parcourir les rues pour demander de l'argent. Et à exposer ces enfants-là avec des photos. C'est vrai, je vais faire une bonne action. Mais je n'ai rien. Moi-même, d'abord, je n'arrive pas à manger. Et puis, je vais réunir un nombre d'enfants sous prétexte que ce sont des orphelins. La structure là où ces enfants-là habitent, moi, je n'encourage pas ça. Donc, si tu veux encadrer ces enfants-là orphelins, c'est bien. Mais il faut avoir de l'argent. Moi, je n'ai pas d'argent. Donc, comment est-ce que je vais commencer à faire quelque chose? Donc, je ne serai pas à mesure de prendre ces enfants-là en charge. C'est compliqué.
Merci.
Moi, je n'encourage pas.
Merci beaucoup. Alors, parmi les formes de pauvreté, il y a aussi, parmi les différentes formes de pauvreté, il y a la maladie. Alors, on doit quand même savoir comment est-ce que le jeune devrait-il se comporter face aux personnes vulnérables du point de vue sanitaire. Hein? Parce qu'une personne malade, disons qu'elle est pauvre, parce que elle est en manque d'une bonne santé. C'est aussi une forme de pauvreté. Alors, à ces jeunes qui nous suivent, frère Ifin, qu'est-ce que vous pouvez leur prodiguer comme conseil? C'est-à-dire, quelles sont les attitudes que les jeunes doivent adopter en face de personnes malades?
D'abord, ils doivent adopter l'empathie, aussi le respect. Parfois, on a du mal à respecter les malades, les personnes vulnérables. Alors, il faut développer cette empathie et on ne se limite pas à l'empathie, mais aussi réagir. Je me rappelle une fois, je parlais ici de l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne pauvre, par exemple. On identifie sa pauvreté, on sait qu'il est pauvre économique, mais on ne doit pas venir avec des théories des mathématiques ou des accompagnements psychologiques pendant que la personne a besoin d'un accompagnement financier. Et voilà pourquoi je dirais, ici, ils doivent développer l'empathie et aussi la solidarité, la proximité. Être proche d'un malade nous fait en quelque sorte découvrir notre fragilité humaine. Alors, être proche de cette personne, sentir avec les malades, en tout cas, ça nous aidera à être humbles, mais aussi à trouver des solutions à cette maladie. Parce qu'on palpera cette maladie de notre peau, parler avec cette personne, être proche. Il y a par exemple le livre du cardinal Sarah, La force du silence, quand il raconte ce qui a suscité la rédaction de ses livres, c'était la rencontre de son frère, le frère qui était dans le monastère. Alors quand il est arrivé pour lui rendre visite, le frère ne parlait pas, il était silencieux, mais il était en train de bouger juste la tête et la proximité était fortifiante. Voilà pourquoi j'ai dit développer tout cela permettra de trouver la solution, reconnaissant aussi la fragilité humaine.
Mmh. Ouais. Merci frère Ruffin. Ma sœur, j'espère que je ne vais pas me tromper. Je sais que chez vous, là-bas où vous êtes, vous avez un internat. Vous avez des jeunes. Vous les voyez peut-être vivre. Vous êtes religieuse, vous êtes étudiante, vous êtes intelligente, vous savez voir, vous savez discerner. Mais tel que vous voyez les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que vous sentez quand même qu'ils sont sensibles face à ces personnes malades? Est-ce qu'on peut quand même dire que les jeunes d'aujourd'hui sont capables d'aider les personnes malades et tout? Est-ce que vous les sentez?
Mais il y a certains jeunes aujourd'hui qui sont encore sensibles. Face aux personnes vulnérables, oui. Personnes malades. Mais on voit aussi d'autres qui ne sont pas sensibles. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas être sensibles, ou soit ils n'ont pas appris à être proches de ces gens-là. Oui. Dans le sens où, à la maison, tu es malade, hein? Moi, ça ne me concerne pas.
Oui.
Alors, il faut apprendre tout ça. Nous, à l'internat, par exemple, comme tu l'as soulevé, quand on voit qu'une fille est malade, au lieu que moi, la sœur, que je sois là tout le temps, je vais appeler une de fille, j'ai dit, veille sur ton amie. Mm. C'est une manière de l'initier à compatir avec celle qui est malade. Mm. Vous voyez, dans ces sens-là.
Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Alors, frère Ruffin, quelle est la plus importante chose que nous puissions offrir à un pauvre? De l'argent, du travail, l'éducation, la considération. Vous avez entre autres parlé de l'attention, la compassion. C'est quoi la meilleure des choses? Dites aux jeunes, oui. Dites aux jeunes qui vous lisent souvent, dites-leur maintenant clairement, si un jeune est face à un pauvre,
oui.
Qu'il donne... qu'est-ce qu'il peut lui offrir des meilleurs? Est-ce de l'argent, du travail? C'est quoi?
D'abord, tout cela est important. Qu'il offre les tout dans la mesure du possible. Mmh. Oui, on peut offrir à un pauvre. Toutes ces choses-là sont bonnes pour un pauvre. S'il faut peut-être suivre peut-être l'ordre de quelque chose, quand on vise quelque chose... parce que chaque aide a des retombées, des conséquences positives comme négatives. Alors, si je commence d'abord par offrir la proximité. Quand on donne une proximité à un pauvre, c'est-à-dire on lui prête l'oreille, on écoute son problème. Et voilà. Et quand on écoute son problème, vous pouvez comprendre, non? Pour l'aider à dépasser ses problèmes, si tu as des moyens, tu peux l'aider avec l'éducation. Soit les scolariser, soit l'inscrire dans un centre de formation. Et après, vous lui cherchez un travail. Parce que vous pouvez chercher du travail à quelqu'un qui a besoin d'abord de l'éducation. Et vous trouverez que ça n'ira pas. La personne sera peut-être insolente au travail et elle va perdre du travail. Là. Mmh. Voilà pourquoi tout est important. D'abord, quand tu lui offres la considération, la personne, écoute. Oui, c'est sans considérer. Donc, ce qu'elle dit, elle sait qu'il y a quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui a besoin, au fait, d'offrir quelque chose de plus. Déjà, l'écoute, écouter, c'est pas facile, mais offrir déjà l'écoute à quelqu'un, c'est quelque chose de grand. C'est à partir de l'écoute qu'on peut développer encore d'autres. Donc, cette attention-là qu'on peut offrir à un pauvre, à toute personne qui se trouve dans la difficulté, dans un problème, l'écouter, c'est quelque chose de bien. Même un voleur a besoin d'être écouté. Même un voleur, vous allez voir, quand on arrête un voleur, il crie, « Je suis innocent, je suis innocent. » Donc, vous allez voir, mais si vous lui prêtez quoi, l'oreille, vous allez comprendre maintenant les incohérences dans ce qu'il dit et vous découvrez, non, c'est réellement lui le voleur. Mais quand on se fonde sur des préjugés, ça sera difficile d'apporter une bonne aide à la personne en besoin.
Merci, merci, merci frère Ruffin. Vous serez un bon accompagnateur spirituel. Parce que là, il faut vraiment développer l'écoute, le discernement et tout. Ma sœur, comme religieuse, hein, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes? Qu'est-ce qu'ils peuvent offrir aux pauvres des meilleurs? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça?
Il y a d'abord, pour moi, je pense qu'il y a l'attention. Mmh. Attention, être proche de ces pauvres-là. Mmh. Écouter. Mmh. Je vais soulever. Écouter. Qu'est-ce qui fait que ces pauvres-là demeurent pauvres? Mmh. Est-ce que c'est parce qu'il n'a rien? C'est parce qu'il ne trouve pas? Il ne sait pas chercher? C'est la force qui manque pour travailler? Mmh. Alors, le pauvre a besoin de tout ça. Alors, moi, jeune de partout, donc je dois offrir tout ça.
Oui.
Donc, de l'attention, écouter d'abord la personne. C'est quoi le besoin de la personne? Et puis, à partir de ce besoin-là, vous pouvez offrir quelque chose de plus.
D'accord. Merci. Merci, ma sœur. Je veux retenir un aspect dans la réponse du frère Ruffin. Le frère Ruffin dit quand on aide, quand on donne quelque chose, il y a parfois des retombées, non?
Ouais.
Il y a des conséquences, il y a des incidences aussi bien positives que négatives. Alors, vous pensez que quand on a aidé comme ça un pauvre, ce dernier est obligé de vous rendre l'appareil? Ma soeur, vous pensez que quand vous avez aidé un pauvre, pensez que ce pauvre-là doit peut-être un jour vous aider aussi, vous remercier, ou peut-être comme pas tellement vous, disons, vous rendre l'appareil ou rembourser, comme si c'était l'aider, c'était comme lui prêter quelque chose, pas nécessairement, mais vous pensez que cette personne-là, ce pauvre-là, sera obligé de vous être redevable?
Le pauvre que j'aide n'est pas obligé de me remercier sous d'autres formes, rembourser ce que je lui ai prêté, pas prêté, mais donné, parce que j'ai donné pour que ces pauvres-là puissent s'en sortir.
Oui.
Et comment je vais demander encore en retour quelque chose?
Oui.
Donc je donne, je ne compte pas. Merci. J'ai donné pour que la personne s'en sorte.
Merci, ma soeur. Je l'ai dit pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parfois, il y a des cadeaux empoisonnés.
Oui.
Il y a des cadeaux empoisonnés. On donne, mais on sait qu'on va profiter. Il y a même des jeunes filles, des jeunes, puisque c'est une émission des jeunes. Il y a des jeunes qui sont victimes de ça. C'est-à-dire, surtout des jeunes filles en difficulté, pauvres, et qui rencontre apparemment de bonnes personnes, mais après ça tourne mal.
Oui.
Au début, apparemment les intentions sont bonnes. Apparemment, les motivations premières étaient bonnes dans l'ensemble, mais après on se rend compte que ah, et c'est trop tard, frère Ruffin. Mettez-vous à la place d'une jeune fille qu'on a aidée. Parce qu'en fait, le parent n'avait pas d'argent.
Mmh.
Une jeune fille dont les parents sont pauvres, et il y a un monsieur qui se présente pour peut-être aider la jeune fille afin qu'elle finisse ses études.
Ouais.
On veut la scolariser.
Mmh.
Et un jour, le monsieur commence à vouloir peut-être sortir avec la fille ou abuser d'elle. Mettez-vous à la place de cette fille-là. Elle fait quoi? Ou peut-être que l'aide n'est pas encore finie, mais on lui dit, si tu veux que je continue, tu dois me donner ceci et cela. Elle est pauvre, frère Ruffin. Il y a des jeunes qui se retrouvent dans ce genre de situation et qui nous suivent.
Oui.
Alors, peut-être votre parole, peut-être votre conseil pourra les aider, oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
La première des choses que je dirais est que la pauvreté n'est pas une maladie. Et ce qui fait qu'on peut être pauvre et garder sa dignité soi-même. Parce que c'est une maladie dans la mesure où quelqu'un d'autre s'occupe de toi. Tu n'en peux plus, c'est l'autre qui vient te laver, c'est l'autre qui vient t'habiller. Donc, il peut faire ce qu'il veut sans ton consentement. Mais étant pauvre, on a toutes les facultés en place. Voilà pourquoi on ne doit pas aller... On peut être pauvre et digne.
Donc, garder sa dignité.
Oui, garder sa dignité même dans la pauvreté. Et si... Je ne refuse pas le fait que les gens, par exemple, dans cette aide, ils se mettent, en fait, il y a consentement des deux personnes. Là, c'est un autre cas. On ne sait pas comment ça a commencé. Il y a consentement. Il y a des lois qui réglementent cela. Ça peut être un abus parce que c'est une personne que tu aides. Normalement, on ne marie pas la personne qu'on aidait parce que elle est vulnérable, elle est
on revient beaucoup
voilà, sur elle est fragile. Mmh. On ne peut pas. Mais s'il arrivait cela, soit cette famille peut t'amener devant la justice et la personne n'aura pas assez d'arguments.
Excusez-moi, puisque vous parlez de la famille.
Oui.
Vous savez que dans certaines familles ici à Kinshasa,
ils envoient les gens
À cause de la pauvreté.
Ouais. Mm-hmm.
C'est parfois les parents qui envoient les jeunes, qui envoient leurs jeunes filles, peut-être dans ce genre de situation, peut-être qui leur demandent de se prostituer. Oui.
C'est un abus. Il faut décourager ça. C'est un abus. On abuse de l'enfant, on compromet l'avenir de l'enfant.
Ouais.
On ne sait pas ce que cette personne, cette fille deviendra après. Mmh. Alors, on compromet quoi, son avenir. Voilà pourquoi j'ai dit, on peut garder la dignité dans la pauvreté.
Ouais.
On peut demeurer digne, pauvre et digne. Donc, on garde sa dignité au lieu de vendre sa dignité. La dignité coûte cher que les biens matériels, que la pauvreté. Parce que l'incertitude du futur, l'incertitude de ce que nous serons, ne nous permet pas d'abuser de notre dignité. Parce qu'aujourd'hui, on peut être pauvre et on s'engage à travailler, bien que ça ne marche pas, mais avec l'espérance que ça marchera un jour.
Oui.
Et si on compromet notre avenir aujourd'hui et demain, on va regretter par la suite. Voilà pourquoi j'ai dit, chers jeunes, gardez la dignité même dans la pauvreté. Ceux-là qui ne suivent pas cette émission, vous qui suivez l'émission, allez-y, réconfortez ces pauvres, cette personne qui est désespérée, qui traverse des moments difficiles, qui a sa maman à l'hôpital et qui cherche de l'argent pour soigner sa maman et on lui propose des choses comme ça, décourager ces choses. Tu peux, parce que j'ai parlé de l'incertitude du futur, tu peux passer à l'acte, tu abuses de toi pour sauver la maman et tu reviens à l'hôpital, tu trouves qu'elle est déjà décédée. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà pourquoi on peut garder la dignité même dans la pauvreté.
Oui, bientôt ça sera la fin. Bientôt, ça sera la fin de l'émission. Mais je voudrais quand même que la religieuse qui est là prodigue aussi un conseil à ces papas-là
ouais.
où il y a aussi des mamans qui abusent de jeunes garçons. Je voudrais quand même que la sœur, vous puissiez dire aussi à ces adultes-là qui nous suivent, à ce papa-là, ces vieux-là ou ces vieilles femmes-là aussi qui abusent de jeunes pour peut-être que à travers... de l'aide qui leur apporte, ils en abusent, oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, peut-être qu'un conseil?
Bon, comme petit conseil, je dirais au papa là et puis au maman là, d'arrêter de le faire. D'abord parce que ils ont des enfants.
Oui.
Ils doivent considérer ces enfants là comme leurs propres enfants.
Mm.
Et maintenant, si vous abusez des enfants là dans la rue, parce que vous apportez une aide et vos enfants, vous ne connaissez pas leur avenir.
Oui.
Demain, qu'est-ce qu'ils seront? Vous ne savez pas qui vont rencontrer dans la vie et qu'est-ce qu'ils vont leur demander. Donc, quand vous le faites, ce papa-là, dont je parle au papa-là et aux mamans-là, pensez à l'avenir de vos propres enfants.
D'accord, merci, merci ma soeur. Frère Ruffin, un dernier mot, nous oui. sommes à la fin. Aujourd'hui, c'était très intéressant, peut-être grâce à la présence de la sœur Dorothée. Soeur,
toujours.
Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant.
Oui.
Hein, je suis même triste, étant donné qu'il est temps.
Oui.
Mais bon, on n'y pouvait rien, on n'y pouvait rien. Un dernier mot à nos jeunes, à tous ces auditeurs et toutes ces auditrices qui nous suivent.
Chers auditeurs, auditrices, chers jeunes, gardez l'espérance. Que la dignité ne se vend pas, la dignité ne se donne pas comme ça.
En dépit de oui. votre pauvreté.
En dépit de votre pauvreté, soyez dignes, respectueux. Il y a des pauvres qu'on respecte, alors c'est ça. Donc la dignité surtout dans votre situation, que votre situation actuelle, même quand vous serez riche, gardez toujours votre dignité. Vous êtes pauvre, gardez votre dignité.
Merci.
Et votre vie en dépend.
Merci, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, je dis sincèrement merci à la sœur Dorothée, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus, la sœur qui vient de très loin. Elle a accepté de répondre à cette émission, elle a accepté d'être avec nous. Ma sœur, soyez rassurée que les jeunes qui vous ont suivi ont gardé quelque chose de bien de vous et vous les avez aidés. D'une façon à une autre. En tout cas, soyez-en rassurés. Merci au frère Ruffin, rédacteur en chef de la revue L'Avenir, toujours et déjà présent. Merci, merci frère Ruffin.
Merci.
Au micro, vous avez suivi Omer Diela, missionnaire de Saint-Paul. Et nous n'oublions pas notre sœur Gina, qui a pris soin de l'aspect technique. Nous vous souhaitons un fructueux temps de l'avant et prenez bien soin de vous. Ciao, à la prochaine.
Ciao.
Merci, ciao.
Pour la promotion des valeurs humaines, sociales, religieuses et culturelles.
Pour une jeunesse consciente, engagée et protagoniste du présent et du futur.
Suivez chaque samedi à 15h30
l'émission Jeunes pour Jeunes
sur les ondes de Radio Maria
89.9 MHz.